Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 23 décembre. Et oui, on est rendu dans la frénésie des fêtes. J'espère que vous êtes prêts pour les visites, pour la bouffe, etc. Ben, c'est l'émission, votre émission, où on vous parle de voyage, de nature et de science. Ben, je suis seul aujourd'hui, ma consoeur André-Étienne est absente aujourd'hui. Bon, ben, on la reverra quelque part en 2015. Alors, à notre programme aujourd'hui, je vous amène faire un petit tour en Inde. L'Inde, pays de contraste, pays à découvrir extraordinaire. Puis, le prix Nobel de physique a été remis cette année aux inventeurs de la lumière bleue. On verra qu'est-ce que c'est que la lumière bleue, quels sont ses apports particulièrement. Je vous donnerai quelques petits conseils de survie pour le temps des fêtes au cas où. Puis, des agents d'immigration au Canada nous révèlent toutes sortes d'anecdotes qui arrivent à l'aéroport, plus insolites les unes que les autres. Puis, on visitera les milieux naturels du Québec, par exemple, les terres humides, les forêts, le milieu marin et d'autres choses. Alors, c'est un programme, je pense, qui est assez varié. Alors, les couleurs de l'Inde, c'est Cynthia Réaume qui nous en parle dans le Journal de Montréal du 18 octobre. Alors, on quitte Delhi et on prend la direction de la Ville Rose. La Ville Rose, c'est Jaipur, hein? Et on fait 6 heures d'autobus. Dans la rue, vous avez les motos, les bicyclettes qui zigzaguent, donc les camions, les charrettes, les vieilles voitures. Hein? Et vient s'ajouter au tableau des sangliers, des singes, des éléphants, des chèvres, des chameaux, des poules et des vaches. Bien sûr, les vaches sacrées. Donc, il y a de tout sur la route. Les autoroutes, c'est une véritable cacophonie. Quelquefois, le jaune des champs, des fleurs de moutarde, va réussir à nous éblouir. Et à Jaipur, on trouve aussi le Palais des Vents, qui est une structure assez extraordinaire, très jolie. C'est simplement une façade. Et lorsque le vent s'engouffre, il y a une sonorité particulière. Mais très jolie sur le plan de la photographie, c'est merveilleux. La ville de Jaipur est entourée de murailles roses, d'où son surnom, la ville rose. L'odeur des épices et les singes sont omniprésents. Il faut faire attention à Jaipur, parce que les singes nous sautent dessus, littéralement. On visite le palais royal et le fort d'Ambre, c'est Amber, en fait, de Jaipur, qui est assez intéressant. On peut s'y rendre à dos d'éléphant, spécial. Et l'architecture à Jaipur est absolument magnifique. Un soir, on décide d'aller au cinéma pour visionner un film de Bollywood. Vous savez que les Indiens sont des grands producteurs de films, des films qui durent parfois très longtemps. Et la langue de diffusion est, bien sûr, en hindi. Et il n'y a pas de sous-titres, donc c'est assez particulier. Il y a plein de monde dans la salle et il ne faut pas oublier que l'Inde vend 2,5 fois plus de billets que le cinéma américain. Près de 3,2 milliards de billets sont vendus à chaque année. Et quand les lumières se ferment, que la projection commence, vous allez avoir, contrairement à ce qu'on vit ici, des cris, l'excitation. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions à ce qui se passe dans le film. On prend l'autobus pour se rendre à Agra. C'est la ville-mère du trésor national indien. Ben, vous savez ce que c'est, hein? C'est le Taj Mahal. Monument magnifique, impressionnant. Et on commence par visiter le fort d'Agra, qui fut la résidence royale de l'empereur ayant construit le Taj Mahal. C'est l'un des tombeaux les plus célèbres de l'humanité. Il a été achevé en 1648 et il a nécessité, il semblerait, le travail d'environ 22 000 personnes. C'est en fait le résultat d'une promesse d'amour que l'empereur Shah Jahan a fait à son épouse préférée, la troisième femme, alors qu'elle était sur son lit de mort. Il lui a promis 3 choses. Et donc, de ne jamais se remarier, de veiller sur ses 14 enfants et de montrer au monde entier son amour pour elle. Ah, le résultat de cet amour éternel est absolument grandiose. Les dimensions du tombeau sont impressionnantes. C'est une harmonie, une symétrie presque parfaite. C'est très émouvant, presque religieux, une espèce de silence devant le Taj Mahal. On se rend maintenant à Varanasi, complètement dans le nord. On traverse le centre-ville pour se rendre sur la berge du fleuve sacré, le Gange. Et vu l'importance religieuse de la ville, la circulation y est encore plus intense que dans tout le reste du pays. Il y a des milliers de passants. Les femmes ont des drapés très colorés. La ville de Varanasi est reconnue pour sa production de soie. Et en tant que piéton, la traversée des rues constitue chaque fois un petit miracle. Le guide nous dit en blaguant que si nous voulions traverser la rue sans danger, nous n'avions qu'à suivre une vache. On sait que la vache est un animal sacré dans la culture hindoue. Il n'y a donc aucune chance de se faire frapper. Il faut faire attention cependant parce qu'il y a des dépôts, des bouses de vache, un petit peu partout, qu'on utilise. D'ailleurs, on les fait sécher et on les utilise pour la combustion partout. Alors, les vaches se promènent tout bonnement dans les rues et reçoivent souvent des offrandes. C'est impressionnant aussi de voir tous les pèlerins sur les marches qui descendent vers l'eau. Ces petites marches de pierre se nomment des ghats et permettent aux hindous de rejoindre le fleuve afin d'y faire leurs ablutions pour se laver de leurs péchés. Les dévots viennent de partout, de tout le pays, pour s'y baigner. Au crépuscule, selon la tradition, on peut allumer une bougie sur un lit de fleurs et la déposer sur l'eau avec la main droite en faisant un vœu. C'est une superbe tradition. L'ambiance avec les lumières flottantes est unique en son genre. Varanasi étant un lieu de pèlerinage très prisé, à 18h30, tous les jours, en plein air, sur les berges du Gange, ont lieu des cérémonies. Et lorsqu'on observe le paysage sur les berges du Gange, il est impossible de ne pas remarquer la fumée qui s'élève un peu partout. Et ça, ce sont les points de crémation. Dans la religion hindouiste, les corps doivent être immergés une dernière fois pour la purification ultime et la libération de l'âme avant d'être brûlés sur les bords du Gange. À tous les jours, et même durant la nuit, des centaines de personnes se rassemblent pour observer le corps d'un proche défunt se consumer sur un bûcher. C'est un spectacle assez hallucinant. Et l'une des raisons religieuses est que les corps d'enfants en bas âge, des lépreux et des femmes enceintes, ne peuvent être brûlés. Et leurs cadavres sont directement immergés dans l'eau sacrée. On estime que plus de 400 cadavres humains réduits en cendres se retrouvent chaque jour dans les eaux du Gange. Vous imaginez 400 cadavres humains. Alors, la dispersion des cendres dans le fleuve permet aux défunts d'accéder à une meilleure vie future. Expérimenter, voir respirer, goûter l'Inde est quelque chose d'absolument unique, qui peut difficilement se traduire en mots. C'est un mode de vie, une culture, évidemment très différente de la nôtre. L'Inde est une destination qui vous réservera d'incroyables surprises. Et portez, on nous dit, petit conseil, de porter attention aux bouteilles d'eau que vous achetez. Il y a de la contrebande avec les bouchons qui sont recollés. Et au moment de l'achat, il faut tourner le goulot vers le bas pour voir si l'eau s'écoule. Et si le bouchon est bien scellé, alors on peut l'acheter. Juste une petite note en finissant, on entend souvent dire « les Indes » ou « aux Indes ». En fait, les Indes, c'était le regroupement des secteurs britanniques. Donc, ça représentait à l'époque le Pakistan, je pense le Bangladesh, donc les Indes. En principe, on devrait dire l'Inde ou en Inde. La même chose pour Indien, j'entends souvent les Hindous. Hindous, c'est en fait la pratique religieuse, l'hindouisme. Eh bien, en fait, on devrait dire les Indiens. On n'est pas porté ici à dire les Indiens parce que pour nous, ça représente les Indiens à plumes. pour les touristes, là. Donc, c'est pour ça que les Européens vont toujours dire les Amérindiens, ou plutôt, ils ont tendance à dire les Indiens d'Amérique. Alors, c'était un petit tour d'horizon. Alors, il y aurait énormément à découvrir encore en Inde, et c'était Cynthia Réaume qui nous le présentait dans le Journal de Montréal le 18 octobre. Je ne vous nommerai pas le titre de la chanson en hindi, ça serait prendre une chance. Bon, ma connaissance étant très limitée, mais il semblerait que ça veut dire passion. Donc, pour le Taj Mahal. La lumière bleue et notre santé. Sophie Allard nous en parle dans la presse du 2 décembre. En le mois dernier, les inventeurs des diodes électroluminescentes, en fait, c'est les lumières DEL ou LED, des lumières bleues. Il recevait le prix Nobel de physique. La lumière bleue est aujourd'hui omniprésente dans notre environnement. Et cette exposition quotidienne a-t-elle des effets sur notre santé? C'est la question qu'on se pose. La lumière bleue est partout. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est elle qui illumine l'écran de votre téléphone intelligent, de votre ordinateur, de votre téléviseur et de votre tablette numérique. Donc, vous voyez qu'elle est partout. C'est elle qui vous éclaire au boulot, à la maison, sur la route, au centre sportif aussi. Sa faible consommation d'énergie, sa longue durée en font un choix économique et écologique aussi. La tendance en architecture, c'est d'opter pour des lumières plus froides, contenant plus de bleu dans les environnements intérieurs. C'est des gens de recherche qui nous le soulignent. Cette lumière s'ajoute à celle déjà présente dans les appareils électroniques. On est en train d'augmenter la proportion de bleu à laquelle on est exposé à chaque jour. Alors, on suppose qu'à long terme, il pourrait y avoir des dommages. Mais c'est pas encore vraiment connue. La lumière que l'on perçoit, en fait, est blanche. C'est un mélange de couleurs qui se décline dans un continuum allant du rouge au violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert et le bleu. En fait, telles les couleurs de l'arc-en-ciel. Au-delà de ce qui nous est visible, il y a les ultraviolets, les rayons X, et à l'autre bout du spectre, les infrarouges et les micro-ondes. La lumière visible est probablement ce qu'il y a de moins nocif pour l'œil. Mais plus on tend vers le violet, plus la longueur d'onde est courte, et plus elle a une intensité énergétique élevée, d'où son impact potentiel sur les surfaces oculaires. On nous donne une série de considérations techniques que je ne vous mentionnerai pas. Les études montrent que la lumière bleue produit des modifications moléculaires au niveau de la rétine, du cristallin et de la cornée. Elle transforme certaines molécules en radicaux libres, créant ainsi un vieillissement, et c'est ce qu'il faut retenir, un vieillissement prématuré des structures de l'œil, tandis que d'autres molécules créent des dommages potentiels au tissu. Alors, si l'importance des dommages à long terme reste à confirmer, on suppose qu'une exposition prolongée à la lumière bleue peut précipiter et même aggraver la dégénérescence maculaire liée à l'âge et occasionner aussi des cataractes prématurées. Par contre, les effets des rayons ultraviolets seraient beaucoup plus importants. À court terme, les effets possibles sont plus clairs. On note par exemple un inconfort, une fatigue visuelle. Et en présence de lumière bleue artificielle, on a tendance à plisser les yeux et ça crée une tension visuelle. On a une impression de sécheresse oculaire et ça peut occasionner des maux de tête et la performance visuelle est aussi affectée. La lumière bleue est diffuse et crée un éblouissement et on a de la difficulté à voir les détails et les contrastes. Avec des verres protecteurs spécialement conçus pour bloquer la lumière bleue, on diminue l'inconfort de moitié. Le sommeil peut être troublé aussi. Notre horloge biologique est très sensible à la lumière bleue. Et on sait qu'une exposition inadéquate, surtout en soirée, peut avoir des impacts à court terme sur le sommeil. L'utilisation d'un écran tactile en soirée troublerait le sommeil et les rythmes circadiens. La lumière bleue, qui agit comme la lumière naturelle matinale, inhibe la production de mélatonine et elle retarde et rend difficile l'endormissement. Et on sait qu'un sommeil perturbé, ce que ça entraîne, hein? La fatigue, les troubles de concentration, troubles de mémoire et autres. Action sur le cancer aussi. L'action du tamoxifène, qui est utilisé contre le cancer du sein, pourrait être réduite chez les femmes qui s'exposent de façon importante à la lumière bleue en soirée. Alors, des chercheurs américains pensent que c'est en raison du bouleversement des rythmes circadiens induits par cette exposition. Une exposition de 2 heures à la lumière bleue le soir peut entraîner une baisse de 20% de la production de mélatonine. Au-delà des risques qu'elle présente, parce qu'on vient d'en mentionner un certain nombre, la lumière bleue a des effets thérapeutiques variés et intéressants. On l'espère, sans quoi, ce serait mieux de ne pas l'utiliser. Alors, par exemple, pour le travail de nuit, en exposant les travailleurs de nuit à de la lumière enrichie de bleu durant la nuit et en bloquant cette lumière le matin, on arrive à simuler un déplacement de la nuit vers le jour. Et d'autres études menées avec des néons enrichis de bleu auprès de gens travaillant en Antarctique, donc qui sont privés de soleil, ont été concluantes. L'horloge biologique se resynchronisait. Autre bienfait, l'acné, il semblerait. Solution de rechange à la médication. La photothérapie par DEL, lumière bleue, utilise la lumière bleue pour ses propriétés antibactériennes. Sans dommages cutanés. Le traitement est non douloureux et dure simplement une vingtaine de minutes. Et le cancer aussi, lorsqu'exposé à la lumière bleue, les cellules cancéreuses brillent. Et une lumière bleue compte donc parmi les outils diagnostiques, mais elle peut s'avérer tout aussi importante dans le traitement du cancer. Par exemple, lors de certains types de cancers de la peau, la lumière bleue est utilisée pour activer une photosensibilisation appliquée sur la peau pour un traitement localisé. Si plusieurs appareils de luminothérapie utilisent la lumière bleue pour contrer les effets de la dépression saisonnière, il n'a pas été démontré que celle-ci a un impact plus grand sur l'humeur, par exemple, que d'autres sources lumineuses. C'est avant tout une question d'intensité lumineuse. Donc, qu'elle soit bleue ou autre, c'est simplement une question d'intensité. Alors, même si on connaît peu les effets de la lumière bleue, on peut néanmoins adopter certaines habitudes afin de prévenir une trop grande exposition. Alors, c'était Sophie Allard qui nous en parlait dans la presse du 2 décembre.
Prends-là-tu un coup, Pierre?
Oui, donc, la vidéo, ça fera du bien.
Ça, c'est bon. Joue-moi donc quelque chose, Pierre. La vie est affreuse et remplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. Oui, la vie est affreuse et remplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière et trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Tu fais des belles façons. Je te chante des belles chansons. Donne-moi un don. Souillez la soirée et puis sous le soir d'avant. Sous encore la soirée et puis sous tout le temps. Souillez la soirée et puis sous le soir d'avant. Sous encore la soirée et puis sous tout le temps. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière et trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons. Je chante des belles chansons. Donne-moi un don. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, qu'un homme qui prend de la bière n'a pas besoin de gobelet. Oui, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, qu'un homme qui prend de la bière n'a pas besoin de gobelet. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, aïe, trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons, je chante des belles chansons. Donne-moi un don. Ma femme s'est choquée et puis elle m'a battu. Quand je me suis réveillé, je lui ai répondu. Ma femme s'est choquée et puis elle m'a battu. Quand je me suis réveillé, je lui ai répondu. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je chante des belles chansons, tu fais des belles façons. Donne-moi un don.
Bon, bonne chanson d'époque, hein? C'était la famille Suissy. Pierre Daigneault particulièrement. Bon, on a reconnu l'air, bon, je pense, hein? Pierre Daigneault, qui avait un autre nom que j'essaie de trouver actuellement, parce qu'il a été écrivain aussi. Il avait écrit la série X-13 à l'époque. Et peut-être que ça me reviendra tout à l'heure. Bon, ça nous fait penser que peut-être on peut avoir certains abus dans le temps des fêtes. Hein? Alors, comment on peut survivre aux abus du temps des fêtes? On nous donne quelques conseils dans la presse du 16 décembre. D'abord, les dérangements gastriques. Ah, les repas copieux, bien arrosés, sont fréquents pendant le temps des fêtes. Malheureusement, les troubles digestifs peuvent aussi être de la partie et gâcher vos festivités. Lorsque des portions excessives, la nourriture riche en gras et une consommation importante d'alcool viennent s'ajouter aux heures de repas inhabituelles, ben, c'est votre système digestif qui risque d'en subir les contre-coups. Bon, on sait que les troubles digestifs les plus courants sont l'indigestion, le reflux gastro-ésophagique, les brûlures d'estomac, si on veut. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Éviter de manger quoi que ce soit d'autre dans les heures suivantes et consommer des repas légers, bien équilibrés le lendemain. Aussi, bouger après avoir trop mangé plutôt que de rester assis, en allant marcher dehors, en faisant la vaisselle, en jouant à des jeux, en dansant, bon, sans toutefois exagérer. Bien sûr, cesser de fumer, de boire du café, surtout de l'alcool, dès les premiers symptômes d'inconfort. La nicotine, la caféine, l'alcool sont des substances qui irritent l'estomac. Boire des tisanes aussi, des tisanes de camomille, de menthe, de verveine, car cela peut aider à faciliter votre digestion. Ça peut soulager vos symptômes en stimulant la sécrétion des sucs digestifs. et prenez, si nécessaire, des antiacides. Je pense à Tom's Rolaid, ces marques-là. Ils sont offerts en vente libre dans la plupart des pharmacies. Leur effet est rapide, mais de courte durée. Bon, 1 à 3 heures, qu'on nous dit. Et si nécessaire, il y a aussi ce qu'on appelle les antagonistes des récepteurs. Donc, Pepcida, c'est Zantac 75 et des choses de ce genre qui peuvent être recommandées en vente libre. Les nuits blanches. Vous savez que si vous n'avez pas l'habitude de vous coucher au petit matin, ben, ça fait presque autant de tort à l'organisme que les pires excès de nourriture ou même d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, retrouvez au plus vite votre horaire habituel. Ben oui, vous devez rétablir le plus rapidement possible votre synchronisme avec le monde extérieur. Donc, c'est de vaquer à vos occupations comme à l'accoutumée. Mais on nous dit, ben on a tendance à le faire, d'éviter de rester au lit jusqu'à 13 heures. On dit que c'est la pire chose à faire pour vous remettre correctement sur pied. L'endormissement du soir risque d'être beaucoup plus difficile si vous faites la grasse matinée. Faites de petites siestes plutôt pour retrouver vos forces. Mais attention, les siestes ne doivent pas dépasser 30 minutes. Pourquoi? Ben parce qu'au-delà de cette période, vous entrerez dans une phase de sommeil profond dont il sera difficile de vous extirper. Couchez-vous 1 à 2 heures plus tôt la nuit suivante. Cela peut vous aider à récupérer. Et sachez toutefois qu'une nuit de durée normale est souvent suffisante pour s'en remettre. En effet, la quantité nécessaire de sommeil pour récupérer est inférieure à la quantité perdue. Donc, on peut, autrement dit, se rattraper assez facilement. La gueule de bois, bah, ça peut vous arriver à l'occasion. J'en ai entendu parler déjà. Durant le temps des fêtes, l'alcool coule souvent à flot. Malheureusement, les effets d'une soirée bien arrosée se font toujours douloureusement sentir le lendemain. Ah, si vous vous levez avec un mal de tête lancinant, des nausées, bah, voici ce que vous pourriez faire. Buvez de l'eau, par petite dose, mais régulièrement, afin de vous réhydrater. Prenez 1 ou 2 comprimés et d'ibuprofène, c'est de l'Advil, du Motrin. Mangez des aliments qui vous aideront à remplacer les nutriments perdus, des craquelins, des bouillons salés, des choses semblables. Et ne prenez surtout pas un verre d'alcool. C'est un mauvais conseiller, ça, qui nous dit ça. Prenez du repos, activité légère, évitez le café, bien sûr, et essayez de boire des tisanes de menthe, de gingembre ou autre chose, et vous passerez un bon temps des fêtes.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bon, rien à déclarer. Hein, c'est tiré d'une revue qui s'appelle Curium. C'est une revue pour les jeunes que je trouve fort intéressante. Je pense que c'était le premier numéro. Et c'est par Jade Bérubé. Rien à déclarer. Ce sont des anecdotes réelles qui se sont passées dans les aéroports, des histoires assez insolites, des potins qui ont été rapportés par des agents ou agentes d'immigration. Bon, il est interdit d'entrer au Canada avec de la viande dans ses bagages. On comprend pourquoi, parce qu'elle pourrait contenir des bactéries nocives et étrangères. Mais rien ne vous empêche de transporter du poisson. Or, qui dit poisson cru pendant plusieurs heures de vol dit des vers, des asticots, l'odeur aussi. Il n'est donc pas rare de voir des migrants débarquer au pays avec des valises grouillantes de petits vers, des petits vers blancs. Alors, on tire au hasard à ce moment-là pour savoir qui sera l'agent ou l'agente qui aura la chance d'aller fouiller les bagages. Un vieil homme chauve a déjà tenté de passer la frontière avec dans sa valise 3 bouteilles de shampoing. Et l'agent nous dit, je comprends pas comment il a pu penser qu'on ne trouvera pas ça louche. Les courges. Puisque la viande est interdite, certains tentent d'en dissimuler dans des courges. Une fois vidé, l'intérieur d'une courge ou d'un potiron devient une excellente cachette. La nuit, c'est que les douaniers connaissent bien le truc de la courge parce que ça a été fait de trop nombreuses fois. Les détecteurs de cocaïne sont maintenant tellement sensibles qu'ils peuvent détecter des résidus de poudre si le voyageur en a consommé la veille à côté de sa valise. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine passée, j'avais parlé de différents systèmes de protection dans les aéroports qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc, c'est le cas pour la détection de la poudre. Quelque chose que j'ai vu plusieurs fois à l'aéroport. Pour entrer à l'aéroport, les voyageurs doivent prendre un escalier roulant, la plupart du temps, dès qu'ils sortent de l'avion. Alors, certains migrants n'en ont jamais vu de leur vie. Aussi, en mettant le pied dessus, ils basculent. Et ça, je l'ai vu dans les aéroports. Et ça fait un effet domino. Par exemple, Air Maroc, Air Algérie, Air Caraïbes, c'est classique. Quelqu'un trébuche et la foule déboule. Assez particulier comme phénomène. Les privilégiés. Quand une célébrité arrive au Canada, son avion doit être dédouané. Alors, les agents nous disent souvent, on se bat pour avoir le droit d'aller dans l'avion, par exemple, de Madonna. Un collègue a même, et ça m'apparaît peut-être un peu exagéré, a déjà ramassé un bout de cigarette de Brad Pitt dans un cendrier. Alors, jusqu'où on peut aller, hein? L'arnaque, maintenant. Au moins une fois par semaine, un homme inquiet de ne pas voir descendre de l'avion une amoureuse rencontrée sur le net vient frapper aux portes du bureau d'immigration. Et ces hommes arrivent à l'aéroport avec des ballons, des chocolats, des bouquets de fleurs. Parfois, ils se sont même ruinés pour aider cette personne à venir le rejoindre sans réaliser qu'ils ont été l'objet ou le sujet d'une arnaque. Je ne sais pas si vous le saviez, mais une personne qui est reconnue coupable de conduite en état d'ébriété n'est pas autorisée à séjourner au Canada. La règle est la même aux États-Unis, même si l'infraction a eu lieu 20 ou 30 ans auparavant. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien, hein? Petite histoire, incroyable mais vraie. Deux étudiants belges se présentent devant une agente d'immigration qui leur demande « Qu'est-ce que vous venez faire au Canada? » Et ils répondent, on vient se marier avec des Indiennes. Pardon? Oui, si on se marie avec des Indiennes, on devient des Indiens, non? Alors, un peu surprenant, hein? Et une petite dernière, c'est les individus avec un dossier criminel sont souvent interdits de séjour au Canada et renvoyés le jour même en avion. C'est ce qui est arrivé au rappeur Akon. Il était accompagné de tout son band, mais il ne se présentait pas sous son nom d'artiste. Alors, son dossier criminel l'empêchait clairement de traverser la frontière. On lui a alors demandé « Qu'est-ce que vous faites dans ce band? » Quand il a répondu qu'il était le chanteur, sa collègue a crié « Ah oui, Akon, Akon! » On a tous pouffé de rire, et lui aussi. Mais quand même, il n'a pas pu rentrer au pays. Alors, vous voyez, rien à déclarer, ou presque, hein?
Avant que frappe à bord, j'ai passé un bel été. Les yeux d'un nénuphar, plein de prospects, plein de beauté. C'est tellement vrai que même des fois, le soleil voulait même pas se coucher. La crise de pain, oh yeah, la vie rêvée, oh yeah. Pour arjoser longtemps, mais j'suis en train de mourir au bout de mon sang. L'histoire d'amour qui finit mal comme dans le journal. Ça a commencé le printemps passé en regardant les oiseaux s'apprécier. C'est beau la solitude, mais comme on dit, à deux c'est mieux. Justement, y'en a une qui brette dans le coin, une belle grande brune. Ses beaux yeux si mouillés que quand je la voyais, je passe proche de me nier. Est installée ce petit lac à côté avec ses petits célibataires. Moi, je m'en mêle pas, j'aurais même pas quoi faire. À tous les matins, 8h moins quart, j'passe le par hasard. Je la vois de loin, besoin de rien, pas grave, je repasserai demain. En attendant, moi, je tape la trille. Et là, pour ça, c'est un besoin d'aide. Un beau matin, elle me lâche un corps, elle me dit, t'arrêtes ça, une belle quenouille. Moi, je me suis dit, à chercher mort, rien que dans sa voix, je le sais cabouille. Chope dans l'eau, je suis propre, y'a plus rien qu'un chêne, un petit couille de temps en temps, un petit frotte. Cette patente-là, faut pas carouiller. En route pour le bonheur, on sait jamais, peut-être même pour la grande chatouille. Ah, dis pas, crée-moi-tu, je m'en vais par là. Dis trop, dis galop, ou mon petit cœur léger comme un manche polo. Y'a du fond dans ma cabane, la boucane dans le chat. Oui, mais je tripe comme une banane. gros galoche dans l'overflow. Le sol est bleu, la vue est floue. J'suis rendu. Tout à coup j'entends des voix. On dirait bien qu'un pas tout seul. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pareil, j'sors du bois. Qu'est-ce que je vois? Un petit non, c'est pas vrai. Ça toi, sans toi, traqué traite dans ma face. Pis bang, bang, faut que je m'efface, faut que je débarrasse. Me vire de bord, me poigne des branches. Pis je m'accroche le panache. Nous pauvres cervidés, quand on aura des chars, on fera des défilés sur la troisième avenue. On posera sur nos capots des têtes coupées de chasseurs, puis on laissera le cerveau chez ses dents.
Alors, une de mes préférées de Richard Desjardins, Bock, avec l'orchestre symphonique, hein? Magnifique. Maintenant, tiré de Nature sauvage, c'est une édition spéciale. On vous parle de différents milieux. Milieux humides, la forêt, milieux marins et d'autres choses. Donc, on commence avec des milieux humides. Ils ont 1000 villages, les visages plutôt, des milieux humides. Tour à tour des herbiers aquatiques, marais, des prés humides, des marécages, des tourbières. Ils sont d'eau douce, bien sûr, mais aussi d'eau saumâtre ou salée. Les zones humides arrivent au troisième rang du palmarès mondial des milieux les plus performants en matière de productivité biologique. Tout juste après les forêts tropicales, pluvieuses et, étonnamment, les récifs coralliens. Pas étonnant que la vie explose. Ils fleurissent des plantes admirables. Ils croissent grenouilles, rainettes. Ils chassent aussi d'élégants échassiers. Le rutilant canard branchu s'y pavane fièrement au printemps. Et l'été durant, le martin pêcheur d'Amérique, perché à une bonne hauteur, y surveille sur la surface d'activité du menu fretin. Sur les berges, vont et viennent loutres, castors, visons et compagnie. Et sous l'eau, on trouve des tortues, des poissons, une multitude d'invertébrés aquatiques. En plus de servir de pouponnière à des milliers d'espèces, d'abriter tant de vie, les milieux humides nous rendent de précieux services écologiques. Ils filtrent et régularisent l'eau, piègent les bactéries et les polluants et contribuent au recyclage des éléments nutritifs. Donc, vous voyez, c'est quand même un milieu très fertile, très vivant aussi, hein? Milieu marin maintenant. C'est une fois passé la pointe est de l'île d'Orléans que l'eau du Saint-Laurent devient progressivement salée. On parlait d'eau saumâtre tout à l'heure. Et le fleuve se transforme alors en estuaire. Donc, à partir d'île d'Orléans, on appelle estuaire. L'estuaire marin se transforme alors en golfe. Et ça, c'est l'embouchure, si vous voulez. Voici des grandes eaux, des courants froids mais profonds, riches en plancton, des baleines aussi, les marsouins, les fous de bassin. Et ça, c'est le Québec maritime. Sous la surface des flots se cachent bien des mystères. On sait par exemple que les eaux de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent abritent au bas mot 2200 espèces d'invertébrés marins. Des éponges, des méduses, des hydres, des mollusques. Il y en a sans doute bien davantage, mais on ne sait pas combien d'autres. On sait aussi que 120 espèces de poissons croisent dans ces eaux, dont des raies, des requins, des chimères, des vedettes comme le bar rayé, mais aussi des figurants de l'ombre comme le pêcheur à trèfle, qui est un minuscule poisson des grandes profondeurs. Et aussi, bien, tous les oiseaux, les mouettes, les grands cormorans, les petits pingouins, étonnamment. Ben oui, on a des petits pingouins ici, des macareux aussi, colorés, macareux, moines. Et enfin, des géants des mers, des cétacés, qui chaque printemps, depuis des millénaires, viennent bourlinguer dans l'estuaire et le golfe pour s'empiffrer de krill. Le krill, ben, c'est des petits crustacés, c'est une spécialité locale. On arrive maintenant dans la forêt. Est-ce qu'elle est homogène, la forêt québécoise? Ben, c'est tout le contraire, parce qu'elle s'étale du sud au nord sur plusieurs degrés de latitude, que le climat change de façon marquée sur ce vaste territoire, mais aussi parce que les communautés forestières du Québec poussent sur une grande variété de sols. Les plantes, mousses, fougères, plantes herbacées, arbustes et arbres en tête, rivalisent entre elles, ou alors forgent des alliances pour l'eau, la lumière, les nutriments. Dans ces bois, il y a compétition, prédation, parasitisme et mutualisme, c'est à l'ordre du jour, 365 jours par année. Et à ces millions d'interactions s'additionnent celles entre végétaux et champignons, puis entre champignons et animaux, puis entre animaux et végétaux. De l'humble escargot, qui dans l'érablière farfouille dans l'humus, à l'orignal, qui de ses longues foulées arpente la froide sapinière gaspésienne, tous y trouvent leur compte. Tous y trouvent de quoi se nourrir, s'abriter, se reproduire. C'est la vraie forêt, la sauvage, et ses odeurs qui ensorcellent, ces chants d'oiseaux et d'insectes qui irrésistiblement nous attirent de la lisière lumineuse de la forêt jusqu'à des zones les plus profondes. Alors, on continue dans les différents milieux du Québec. On arrive au nord du 52e parallèle. Voici la taïga. Puis, encore plus au nord, la toundra. Les milieux naturels les plus sensibles, les plus fragiles du Québec. Ces terres septentrionales, plus tardivement libérées des glaces, n'ont été que récemment colonisées par la flore et la faune. À peine 6000 ans avant aujourd'hui. Bon, c'est très récent quand même. La biodiversité du Québec nordique, si elle est moins riche qu'au sud, n'en est pas moins remarquable. Ici, seule la ténacité, l'adaptation à des conditions extrêmes permettent la survie. Le climat est aride, les sols sont ingrats. La saison de croissance des végétaux, brève et intense, permet tout juste aux arbustes et aux plantes herbacées de fleurir et de se reproduire. À l'apogée de l'été arctique, quand la fébrilité s'empare de toute vie, au moment où même le soleil ne se couche plus, les oiseaux nichent, des pluviers, des chevaliers, des bécassos, la grande oie des neiges aussi, le harfan des neiges. Et leurs nids, parmi les plus modestes qui soient, sont sommairement aménagés dans la végétation rase. Parfois, les œufs sont tout simplement déposés à même le sol, entre des cailloux, car rares sont des arbres dans la haute toundra. Se percher, il est un verbe inconnu des oiseaux, mais on y voit loin, et c'est tout le pays qui baigne dans une lumière douce, tamisée, basse, sur l'horizon. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces endroits? Ben, entre autres choses, le renard roux. Il est futé, rusé, malin. Des qualificatifs souvent utilisés pour parler du renard roux. Un mammifère opportuniste, fréquentant une foule d'habitats. Des champs cultivés, des abords des lacs et des forêts. Grands parcs urbains, boisés. Cimetières même, terrains de golf. Mais rarement est-il question de sa fidélité conjugale. Bien que monogame, parce que mâles et femelles restent généralement unis jusqu'à la mort de l'un ou l'autre partenaire, il arrive en effet que des couples soient pris en flagrant délit de libertinage durant la saison des amours qui a lieu au Québec entre janvier et mars. Il faut dire que tout est ici affaire de vitesse, puisque les femelles ne sont réceptives et fécondes que quelques jours dans l'année. Volage, le renard roux est aussi prolifique. Des petits au nombre de 1 à 10 naissent après seulement 50 à 55 jours de gestation et les jeunes femelles seront prêtes à s'accoupler après 10 mois. On observe le renard roux dans les Amériques, du cercle arctique à l'Amérique centrale, en Europe, en Asie, et il a même trouvé le moyen d'atteindre l'Australie. Sa présence a été notée dans 83 pays et sur tous les continents. sauf en Antarctique. Et un autre qu'on trouve aussi dans nos parages, c'est la chouette, qu'on appelle la chouette laponne. C'est le plus grand représentant de la famille des strigidés, qui représente les chouettes, les hiboux. La chouette laponne n'en est pas moins discrète, insaisissable, on peut dire. Dans la vaste forêt de conifères de l'ouest du Québec, elle chasse des petits rongeurs et à l'orée des bois, à bordure des tourbières, des marais, des clairières. On ne l'entend pas venir, je parle de la chouette, et on ne la voit qu'avec chance, juchée au sommet d'un chicot, alors que, grise comme l'écorce et totalement immobile, elle scrute avec soin des alentours à la recherche d'une proie. Grâce à son large disque facial, dirigeant les sons vers ses oreilles asymétriques, placées de part et d'autre de celui-ci, elle peut entendre bouger les plus petits des mammifères, même de loin, même sous la neige. Ah, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Surprise, au déclin ou au lever du jour, elle regardera qui ose la déranger d'un regard jaune, d'un regard pénétrant, et s'envolera sans bruit aucun pour aller se faire voir ailleurs. La vocalise du mâle, entendue seulement durant la saison des amours, est une suite de « ouh » mélancolique grave qui porte loin. Oh, c'était une pâle imitation de la chouette laponne, et ça nous permettait de visiter différents milieux du Québec.
Se ele lava a dor atroz de ser pássaro que soa mais não.
Alors, c'était Bia avec Vento. Bon, ça doit être le vent dans la toundra, ou probablement. Alors, des petits sujets glanés à gauche et à droite, un peu partout. D'abord, une nouvelle, le projet de reconstruction du Colosse de Rhodes. Ben, reconstruire le Colosse de Rhodes, qui était l'une des sept merveilles du monde antique, des scientifiques vont s'y pencher lors d'un congrès dans l'île de Rhodes bientôt. Au printemps 2015, et c'est le maire de la ville qui nous en parle. Faut-il le faire? À quoi sera-t-il utile? À quoi va-t-il ressembler? Il nous dit que nous sommes en discussion avec des scientifiques. Son emplacement reste à définir. Mais à plusieurs reprises, depuis plus de 30 ans, des maires du célèbre port fortifié au sud-est de la Grèce ont voulu recréer le Colosse. Mais les projets ont chaque fois été suspendus en raison du manque de financement ou des réticences du ministère de la Culture. Et en 2000, la municipalité de la cité des Chevaliers de Saint-Jean avait lancé un appel d'offres international, mais le projet n'a pas abouti. Colosse de Rhodes a été édifié entre 304 et 292 avant Jésus-Christ, à l'entrée du port de Rhodes. Et la statue était haute de quelque 31 mètres et représentait Hélios, le dieu solaire. Et elle a été renversée en 225 avant Jésus-Christ par un violent tremblement de terre. À votre avis, quelles sont les plus belles villes du monde? Ben, écoutez, Florence, en Italie, a été désignée comme la ville préférée des lecteurs du magazine américain CN Traveler. Et elle doit sa première place à sa beauté, à ceux qui l'ont visitée le savent, à son architecture et à sa cuisine aussi. Alors, comme tous les ans, les lecteurs du CN Traveler ont voté afin d'établir un classement de leurs 25 villes favorites pour 2014. Cette année, ben, c'est Florence qui l'a emporté. Mais je vais vous citer quelques autres villes ici. Vous avez, étonnamment, Charleston, en Caroline du Sud, qui est deuxième plus belle ville. Budapest, en Hongrie. Le Cap, en Afrique du Sud, je comprends bien. Étonnant aussi, San Miguel de Allende, qui est quand même pas une très grande ville. Prague, on peut le comprendre facilement. Rome, bien sûr. Et au Cambodge, Siem Reap, où vous trouvez les vestiges très impressionnants. Barcelone, ah, je partage. Et Québec, où arrive Québec? La ville de Québec. Ben, Québec arrive en 18e place. Bon, ce qui est quand même bien, je trouve, hein, sur 25 villes. C'est magnifique. Je vous parlais récemment de la ville de La Paz, en Bolivie, qui est située en altitude. Bon, 4000 mètres d'altitude. En fait, c'est de 3200 à 4000 mètres. Et je vous racontais aussi que lorsqu'on arrive à l'aéroport, on peut ressentir, avoir le mal de l'altitude. Les voyageurs qui atterrissent peuvent ressentir, pas tout le monde, les effets de l'altitude sous plusieurs formes. C'est essoufflement, étourdissement, maux de tête, nausées, chute de pression. Et à l'aéroport, il y a même un salon à oxygène qui a été aménagé. Ah, des masques à oxygène sont disponibles à bord de certains autobus aussi. On nous dit de boire du maté, de coca, beaucoup d'eau, manger des aliments sucrés et se procurer certains médicaments avant le départ qui peuvent aider à contrer le mal de l'altitude qui s'appelle là-bas le soroche et qui peut être assez pénible, je peux vous le dire, pour l'avoir vécu. On peut être très malade par le mal de l'altitude et même à mourir. Vous avez échappé votre cellulaire. Bah, vous vous êtes assis dessus. Ben, il a fait un tour de sécheuse où il s'en est bien sorti, mais la vitre est brisée, par exemple. Ah, vous savez que des chercheurs américains ont mis au point un polymère capable de se réparer tout seul, en quelques minutes seulement. Et cette vitre du futur reproduit la coagulation du sang. À la moindre fissure, des produits chimiques sont livrés par un réseau de capillaires et produisent une sorte de gel qui durcit. Ah, assez incroyable, hein? Assez extraordinaire. Ben voilà, ceci nous amène à notre dernière émission de cette année 2014. Ben, on vous remercie de votre fidélité. On espère que vous avez apprécié nos différents sujets. Nous serons de retour en 2015. Alors, je remercie pour la mise en onde des choix musicaux Jean-Sébastien, Jean-Sébastien La Liberté, toujours fidèle. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre site canalm.org. Ça nous fera plaisir de vous lire. Et on est en reprise à 13h et 21h. On vous souhaite de très joyeuses fêtes. On sera de retour en 2015.